Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, on continue l'étude du thème de l'année. Cette année, à l'Église protestante évangélique du Blanc-Mesnil, on étudie ensemble, pendant une série de prédications mensuelles, le thème du...
Pardon.
Le thème du...
Pardon.
Du pardon. Ça va, vous suivez. On a eu déjà... deux très belles prédications, la première par notre frère Peter qui nous a fait redécouvrir l'histoire de Caïn et d'Abel avec l'apparition de la violence entre les hommes. Caïn qui tue son frère Abel et le sang du défunt Abel qui crie vengeance. Et on avait retenu que avant de commettre son crime, Dieu propose à Caïn une autre voie. Seulement Caïn s'enferme dans sa rancœur et finit par tuer son frère. Mais malgré son crime, Dieu ne livre pas Caïn à lui-même. On a vu l'autre fois que Dieu lui fait grâce en lui maintenant la vie sauve et en protégeant sa vie. Ensuite, avec Sylvain, on a vu l'histoire de Jacob. Ce Jacob qui a volé la bénédiction de son frère, Ésaü, et qui, par peur de la vengeance de son frère, s'est enfui en exil. Un exil qui a duré plusieurs années. Années pendant lesquelles Jacob est revenu transformé. Transformé par sa rencontre avec le Seigneur. Transformé par la fidélité de Dieu aux promesses que Dieu avait faites aux ancêtres de Jacob. Jacob était enfin prêt à demander pardon et à recevoir le pardon de son frère. Deux affaires donc, deux histoires je dirais familiales, personnelles. Aujourd'hui nous abordons un aspect plus communautaire. Et pour cela, on lira dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, les versets 1 à 18. Lévitique 19, versets 1 à 18. Voilà. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Lévitique 19, hein? 19, ouais. Lévitique. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte sa mère et son père et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice, ou le lendemain. Ce qui en restera le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel. Et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu y laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Et ainsi tu reverras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen.
Amen.
Voilà, ce texte qu'on a lu, c'est Dieu qui, par la voix de Moïse, s'adresse à son peuple, Israël. Et il dit, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. » On voit dans la suite des versets qu'on a lus que la sainteté que Dieu demande à son peuple, c'est une sainteté envers lui-même, Dieu, dans leur relation à Dieu, dans leur culte, dans les sacrifices. On a les versets, par exemple, le verset 4 qui dit « Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues. » Et les versets 5, 6 et même 7 qui parlent des animaux offerts en sacrifice, Dieu demande qu'ils soient consommés, donc les sacrifices de communion spécifiquement, l'animal offert en sacrifice doit être consommé le jour même. J'étais un peu surpris de voir dans le début de ce chapitre et au milieu des instructions que Dieu laisse à son peuple concernant leur relation à lui, donc le peuple et Dieu, je vois qu'au verset 3, il parle du père et de la mère. Que chacun de vous respecte sa mère et son père. Et ensuite, il ajoute dans le même verset, observez les Shabbats, les jours de repos que j'ai prescrits. Dans toute la Bible, le père et la mère ont une place particulière. Que chacun de vous respecte sa mère et son père, et ensuite observez mes jours de repos que j'ai prescrits, ne vous tournez pas vers les faux dieux, etc., etc. Dieu là parle de comment son peuple doit être saint dans sa relation à lui. Et il inscrit, je dirais, au milieu, l'honneur et le respect dû aux parents. Dans la suite, Dieu va parler spécifiquement de comment être saint avec les autres. Mais le père et la mère, visiblement pour Dieu, ont une place particulière. Je ne vais pas en dire plus. Mais ça nous pousse à réfléchir à nos rapports avec nos parents. Ne pas offrir de culte aux faux dieux, respecter les jours de fête, consommer les sacrifices le jour même, honorer son père et sa mère. Mais il y a encore beaucoup plus de versets qui parlent des relations des uns avec les autres. Pour Dieu, être saint face à lui est indissociable du fait d'être saint les uns avec les autres. On ne peut pas dire, moi je suis saint dans ma relation avec Dieu, je suis vraiment hyper spirituel, pas de problème. Et puis bon, les autres, ma foi, hop, ça, chacun fait ce qu'il veut, moi ça ne m'intéresse pas trop. Non, voilà que là, Dieu mélange la relation de son peuple avec lui, avec la relation qui les invite, qui les appelle à avoir les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que va dire Dieu sur comment être saint les uns envers les autres? Il y a dans les autres des personnes qui ont un profil, un rôle particulier. Dieu va parler des pauvres. On voit au verset 9 et 10, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Même si c'est ton champ, même si c'est ta moisson, même si c'est ta propriété, laisse une part aux pauvres et à l'immigré. Dans les autres, Dieu va aussi parler des personnes faibles, des handicapés, par exemple. Il est parlé au verset 14. « Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. » Et ainsi tu révéleras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Un soin particulier pour ceux qui parmi nous sont un peu plus faibles, comme nous. Ils n'en sont pas moins membres du peuple saint de Dieu. Fais attention à eux. De cette manière-là, tu seras pour moi le membre de mon peuple saint. Dieu va parler ensuite des salariés. Mais pour généraliser, j'ai envie de parler de ceux qui sont à notre service, ceux qui travaillent pour nous. C'est la première partie du verset 13. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Peut-être ici en France, en 2014, parmi nous, il y a très peu de gens qui ont des personnes à leur service, des salariés, encore que. Beaucoup ont des nourrices et tout ça. Mais dans la culture juive et encore actuellement dans beaucoup de pays en Afrique et en Asie, il n'y a pas besoin d'être riche pour avoir des personnes à son service. Même des personnes de conditions modestes ont aussi des gens qui travaillent pour eux. Et là, Dieu nous invite à être là aussi extrêmement vigilants, à ne pas les exploiter, à ne pas les considérer comme des objets qui sont là pour me rendre service, pour me rapporter, et à les rémunérer de manière juste et à temps. Ne pas reporter à demain le salaire que tu dois aux personnes qui sont à ton service. Et ensuite, je dirais de manière plus générale, Dieu va donner des instructions, des commandements, à mettre en pratique envers tout le monde. Tout le monde. J'en ai noté quelques-uns, trois. Au verset 16, il est dit, « Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple, tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Ne mens pas sur ton voisin. Ne calomnie pas son nom. Ne dis pas à son compte des choses fausses. Ne fais pas circuler contre lui de fausses rumeurs. Pas de calomnie. » Au verset 11, il est dit « Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie à l'égard de votre prochain. » Pas de mensonge, mais pas de vol. Ne pas s'approprier le bien d'autrui. Et pas de violence, ni verbale, ni physique. Verset 13. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain. Je me demande si je ne me suis pas trompé de verset. Lequel?
C'est le 13, tu ne primeras point ton prochain.
Voilà, c'est ça. Oui, donc dans l'idée d'exploiter, il y a effectivement l'idée aussi de violence. En gros, l'idée... Pas de paroles mauvaises envers ton prochain. Pas d'actions mauvaises envers ton prochain. Pas de calomnie, pas de mensonge, pas de vol. Et Dieu va donner ensuite des instructions en cas de conflit. Parce que dans l'idéal, si chaque membre du peuple de Dieu mettait vraiment en pratique ses paroles, je pense qu'il n'y aurait quasiment pas de conflit. Il n'y aurait pas de problème. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, sait qu'il y en aura quand même. Et il nous donne, au verset 15 et 17, quelques instructions en cas de conflit. Au verset 17, il est dit, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain. » Le reprendre. Tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Et au verset 15, il a dit, vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Voilà deux versets qui pour moi sont des orientations que Dieu donne pour gérer des différends, des conflits. Il est dit de rendre la justice avec équité, ne pas donner l'avantage aux pauvres, parce qu'il me fait tellement pitié. Non, ne pas donner non plus l'avantage aux plus grands, parce que je l'admire tellement, non plus. Rendre justice dans les jugements avec équité. Mais j'aimerais relire ce verset 17 qui pour moi est très important. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard ou ne pas te charger d'un péché à cause de lui. J'y vois là dans le fait de reprendre le prochain le fait de ne pas se montrer indifférent quand on subit une offense. Il ne faut pas se croire tellement spirituel que « Ah, j'ai subi une offense, quelqu'un m'a fait du mal, eh bien, je ferme les yeux, je tourne mon regard. » Ce verset nous demande de reprendre le prochain, d'aller à sa rencontre, de lui parler, de lui expliquer ce qu'on a subi, ce qu'on ressent. Mais en même temps, ce verset nous met en garde. Attention à ne pas faire grandir dans le cœur une haine. Et c'est souvent le cas quand on n'exprime pas. Quand on n'exprime pas ce qu'on ressent, eh bien on finit par faire grandir en soi une haine. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne... Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Si tu estimes que ton frère ou ta sœur a commis une faute, tu pourrais te charger d'un péché si tu ne vas pas le lui dire. Est-ce qu'on comprend bien?
Oui.
Dieu va expliquer en Lévitique 24 ce qu'il entend par justice. Dieu va poser un cadre. Il va poser quelques jalons, quelques bases. Lévitique chapitre 24, donc quelques pages plus loin, versets 17 à 22. On a là des instructions concernant des situations de conflit ou même de crime entre les membres du peuple de Dieu. Lévitique 24, et on lira les versets 17 à 22. Celui qui tue un homme sera puni de mort. S'il fait périr un animal d'autrui, il le remplacera selon le principe une vie pour une vie. Si un homme inflige une blessure à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, on lui infligera la même blessure qu'il a portée à son prochain. Donc celui qui fait périr un animal le remplacera et celui qui tue un homme sera puni de mort. Vous appliquerez le même jugement aux étrangers et aux autochtones car je suis l'Éternel, votre Dieu. On a là une loi connue dans le langage populaire comme la loi du talion. Talion venant du mot, enfin d'un mot latin qui signifie pareil. Tu m'as fait quelque chose, je te rends l'appareil. Vie pour vie. Fracture pour fracture. Œil pour œil. Dent pour dent. Blessure pour blessure. Dieu là place un cadre. Il faut bien se dire que les Israélites sortaient d'esclavage. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'étaient pas vraiment un peuple structuré en tant que tel. Ils ont pu voir ici et là des pratiques diverses. Et Dieu là va déjà poser un cadre. Le cadre, c'est que, premièrement, eh bien, une offense, un mal, une faute exige une réparation. Œil, non pas pour rien, mais œil pour œil. Dent pour dent. Tu répares ce que tu as fait. Il y a là un principe pédagogique. L'idée de réparer et de sanctionner la faute. Mais on l'a lu dans le texte de Lévitique 19. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Le but n'est donc pas de rentrer dans un engrenage où un œil, l'autre œil, ensuite, ah ben pour me revenger à nouveau, je te casse la dent, et ensuite, hop, du coup, tu me recasses la dent, etc. Non. Réparation, sanction, mais changement. Vous voyez ? Le but, c'est de faire comprendre que faire le mal, offenser, eh bien, ça coûte. Tu as fait du mal à quelqu'un, ça ne peut pas rester gratuit. Le but est aussi de sortir de l'engrenage, de la violence. Œil pour œil, point. Dent pour dent, point. Blessure pour blessure, point. Final, point final. Souvent dans les cours de récréation, pour ceux qui ont des enfants ou qui côtoient des enfants, on voit des enfants qui se bagarrent. Et après, c'est lui qui a commencé. Ah non, c'est toi qui as commencé. Mais oui, mais en fait, c'est parce que tu m'avais dit si. Ah oui. Et on se rend compte que dans les cours d'école, eh bien, ce serait déjà bien de pouvoir appliquer la loi du talion. Aujourd'hui, cette loi, pour beaucoup d'entre nous, nous paraît barbare. Parce que dans la loi française, tu n'es pas censé te faire justice toi-même. Donc nous, on s'est dit, voilà, Dieu, ça c'est bon pour les juifs de l'époque, mais là, quand même, œil pour œil, non. Si je fais ça aujourd'hui, j'enfreins la loi française. C'est vrai. C'est vrai que nous sommes au-dessus de ça. Mais quand on réfléchit bien, cette loi du talion nous enseigne encore aujourd'hui. Combien de fois j'ai vu des personnes qui se sont sentis insultés par quelqu'un qui peut-être était dans un mauvais jour, ou qui était malade, qui n'était pas bien, et qui en réaction se sont mis à calomnier l'autre. Vous voyez la disproportion ? Une parole et une calomnie. Combien d'histoires on entend un tel a poignardé un autre ? Pourquoi ? Parce que l'autre l'a insulté auparavant. Vous voyez, le principe de la loi du talion reste encore valable pour nous aujourd'hui. Elle nous invite à avoir la mesure dans notre proportion, dans notre réaction quand nous sommes offensés. Elle nous invite quand même à limiter notre réaction et à réfléchir pour savoir, mais est-ce que c'est équitable ce que je fais là ? J'aimerais qu'on réfléchisse à ça parce que bien souvent, on surréagit quand on est offensé. Et donc, on n'est même pas dans le principe de cette loi du talion dont on pense qu'elle est caduque. Tu ne haïras pas ton frère, tu ne manqueras pas de le reprendre. Œil pour œil, dent pour dent, tu rendras tes jugements avec équité, sans avantager un tel par rapport à un tel. Mais Dieu va nous laisser dans cette section qu'on a lue le plus grand commandement de tous ceux qu'on vient de lire. Je reviens donc à Lévitique 19, au verset 18, il est dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple. Par contre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a parlé de justice, d'équité. Et là, Dieu parle d'amour. Des fois, on s'est dit, mais comment concilier les deux? C'est bien dans le même livre, nous sommes d'accord. On l'a lu là. Œil pour œil, dent pour dent. Et là, ce verset 18 nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On oublie souvent, même si Jésus le rappelle dans le Nouveau Testament, on oublie souvent que ce n'est pas juste un conseil. Essaie d'aimer si tu peux, bon, c'est pas toujours facile, il t'a offensé, non. C'est un commandement. Tu ne haïras pas. Premier commandement, deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Résiste à la haine qui peut te remplir quand tu es offensé et travaille. Travaille à aimer ton prochain. Amen. C'est des choses concrètes. Hein. Quand on lit ces paroles, moi j'aime bien que ce soit concret parce que j'aime mon prochain, bon voilà, l'amour, waouh, super. Non, concrètement, comment je peux le faire ça? Ben, concrètement, ça peut être par exemple, bon, j'ai été offensé, bon, j'essaie de renouer le contact, de reprendre, ça ne fonctionne pas. Bon, ben, je peux peut-être laisser la colère passer et à l'occasion, envoyer un petit texto, si ce n'est pas facile de s'appeler, de se parler, parce que là, on a été tellement froissé. Un petit texto, Dieu te bénisse, porte-toi bien, une petite pensée pour toi. Les gens du monde vont dire, mais c'est hypocrite ce que tu fais là, puisque dans ton cœur, tu es fâché contre lui. Non, moi, je n'appelle pas ça de l'hypocrisie. Il me semble que Dieu ne l'appelle pas de l'hypocrisie. C'est un travail, c'est un exercice. Je me fais violence. Et pourquoi? Parce que Dieu me demande d'aimer mon prochain contre moi-même. C'est des choses pratiques. Aimer le prochain comme soi-même, encore faut-il savoir comment je m'aime. Parce qu'il y en a qui ne s'aiment pas ou il y en a qui s'aiment trop. C'est pas ça. La section qu'on a lue commence par dire « Vous êtes mon peuple, soyez saints. » Comme je suis saint. Dieu se met en face de son peuple. Soyez saints, vous, comme moi, Dieu, je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commandements que Dieu donne dans la suite, tu dois les recevoir comme étant toi un membre du peuple saint de Dieu. Donc, s'aimer comme, aimer le prochain comme soi-même, c'est se considérer déjà comme aimé de Dieu, comme saint de Dieu, comme appelé à être un saint de Dieu. Mais l'autre qui est assis à côté de moi aussi, Dieu l'aime. Et Dieu l'appelle à être son saint. Et c'est comme ça que je dois l'aimer comme moi-même. Je dois aimer l'autre comme moi-même parce que je sais que Dieu m'aime. Et donc je sais aussi que Dieu l'aime. Et là, voyez, je ne le regarde pas par rapport à moi-même. Je le regarde dans le reflet de Dieu. Et c'est là qu'on comprend ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Aime ton prochain de la part de Dieu. Aime-le de la part de Dieu. Ce n'est pas aime-le selon ta capacité, tes moyens, mais aime-le de la part de Dieu. Aime-le comme Dieu le voit et comme Dieu te voit toi aussi. Justice et amour, équité, œil pour œil, dent pour dent, et amour, ça c'est vraiment difficile à concilier. Et pourtant Dieu l'a fait. C'est ainsi que Dieu donne l'exemple. Dieu ne nous appelle pas à suivre des commandements comme ça. Vas-y, débrouille-toi, moi je suis assis dans mon fauteuil et fais comme tu peux. Dieu a concilié justice et amour en offrant son Fils à la croix. Dieu a rendu justice parce que nous pécheurs, on méritait la mort. Rebelle à Dieu, nous méritions sa condamnation. Seulement pour rendre sa justice, Dieu a utilisé un moyen d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique en sacrifice. Voici l'exemple qui est mis sous nos yeux. Justice et amour quand je regarde à la croix de Jésus-Christ. Et ça, ça change tout. Dieu a manifesté la justice, sa justice et son amour en Jésus-Christ et offre à tous ceux qui mettent leur foi, leur confiance en lui, la vie éternelle, les richesses incorruptibles du monde céleste, les bénédictions éternelles, toutes ces choses formidables. Et donc le chrétien qui croit que Jésus est mort pour qu'il soit pardonné, reçoit de Dieu sa justice, son amour et son pardon. Et quand tu réalises, et ça va être le cas du chrétien, quand tu réalises tout ce que Dieu te pardonne, alors tu comprends que, ben, ma foi, je peux quand même pardonner à mon prochain. Ce que j'ai tellement reçu. Et c'est dans cette logique-là que Jésus nous donne ces paroles radicales dans le sermon sur la montagne en Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 38. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est ce qu'on a lu, œil pour œil, dent pour dent. C'est bien ce qu'on vient de lire. Hein? Eh bien, moi, Jésus, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Verset 43 du même chapitre. Vous avez appris qu'il a été dit, et c'est ce qu'on a lu, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis et même priez pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent. Et en Matthieu 18, on ne le lira pas parce que ce texte fera l'objet d'une prédication prochaine dédiée à ça. En Matthieu 18, Dieu dira à, je crois, Pierre, qui lui demande, mais est-ce que je dois pardonner 7 fois quand quelqu'un m'offense? Et Jésus lui dit, non, tu pardonnes 70 fois 7 fois. Jusqu'à ce que tu ne pourras plus compter. Voilà cette loi du talion que nous avons déjà du mal à mettre en pratique, nous. Parce que souvent, on réagit trop mal par rapport à ce qu'on subit. Voilà que cette loi du talion, Jésus semble dire qu'elle est caduque désormais pour le chrétien. Il n'y a plus de œil pour œil, il n'y a plus de dent pour dent. Et si on te gifle sur la joue droite, dans la joue gauche. C'est bien parce que chaque fois qu'on lit ces versets dans l'assemblée, tout le monde rigole. Mais les gens rigolent parce qu'ils se disent, mais oh là là, mais attends, tu es fou toi, moi je ne peux pas faire ça. On oublie que c'est une parole de l'évangile. Tendre l'autre joue et aimer ses ennemis. C'est pas facile ce que Jésus demande. Il sait que c'est au-dessus de nos forces. Mais comment faire pour mettre en pratique de tels versets? Eh bien déjà, il faut avoir compris ce que Jésus a fait pour toi. C'est là qu'on puise la force. C'est ça. Parce qu'il a accompli tellement pour nous. Il nous a tellement donné. Il nous fait accéder au royaume de Dieu. Mais tu ne vas pas là t'offusquer pour une simple joue ou pour une simple tunique. Tu ne vas pas empêcher cette personne, même si c'est ton ennemi juré, de rencontrer le Christ par toi. Pourquoi pas? Aime-la, prie pour cette personne. Jésus-Christ peut dire ça parce qu'il nous fait rentrer dans une autre relation. Une relation d'amour, une relation de grâce. Si nous sommes appelés à être la lumière du monde, il faut que ça se reflète aussi dans notre vie. Il faut qu'on soit différent. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on s'est dit, mais dis donc, c'est pas facile. Justice, amour, pardon. Quand j'ai préparé ce message, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, oh là là, mais est-ce qu'il y a des personnes dans ma vie à qui j'ai du mal à pardonner? Ma foi, j'en ai trouvé. Et ce texte nous remet en question. Comment est-ce que je peux pardonner tout en demeurant dans l'amour, mais aussi tout en veillant à ce que la justice soit rendue? Eh bien, ça sera la conclusion de notre prédication d'aujourd'hui. C'est quelques pistes pratiques. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est quelques pistes pratiques. D'abord, on a lu que quand on est offensé, eh bien, il ne faut pas détourner le visage, comme si finalement ce n'est rien. Non. En Lévitique 19, il est dit, tu reprendras ton prochain. Il est vrai que Jésus semble nous dire, tends l'autre joue, d'une manière silencieuse. Je me suis dit, mais si je fais ça, l'autre ne comprend pas. Et puis, c'est un peu contradictoire avec ce que Dieu a dit dans le livre de Lévitique. Et en quoi je rends service à l'autre si je l'encourage à continuer dans cette voie-là? Ce n'est pas juste. Dans sa grâce, Jésus lui-même nous a donné un exemple. Jean 18, versets 19 à 23. Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 19 à 23. J'espère que mes notes sont bonnes. Voilà, donc c'est Jésus devant le grand prêtre. On est là avec Jésus dans un tribunal. De son côté, donc verset 19, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple, où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? » Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de Jésus, de lui, le gifla, tac, en disant, c'est comme cela que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal. Par contre, si j'ai bien parlé, alors pourquoi me frappes-tu? Voyez un peu comment Jésus met en pratique son enseignement. Tendre l'autre joue ne signifie pas alterner les joues pour se laisser baffer. Le monde dans lequel nous vivons ici-bas, nous savons comment il est. Ils continueront sans cesse à nous baffer. Ils vont toujours nous baffer. Tant de l'autre jour, frères et sœurs, on le détaillera certainement dans des prédications futures, c'est montrer un autre visage. Réagir différemment.
Amen.
Pas par la vengeance, par la violence, en disant oui, mais attention, mais pourquoi tu me gifles? Mais pas non plus par l'indifférence. Sinon, comment l'autre comprend que ce qu'il est en train de faire est mal? Quel exemple est-ce qu'on lui donne? Vous voyez? Jésus n'a pas tendu bêtement l'autre jour en disant gifle-moi encore. Il a dit, mais pourquoi me gifles-tu? Si j'ai fait du mal, dis-le moi. Mais par contre, si j'ai fait du bien, alors mais dans ce cas, tu es dans l'erreur. On peut prendre cet exemple dans ce que nous vivons au quotidien, dans les situations de conflit, dans les situations d'offense. Réagir quand il y a offense, mais réagir avec amour. Et c'est ça, j'aimerais qu'on retienne de ce message. Réagir, parce que c'est important de réagir, s'emmurer dans son silence, souvent conduit à produire de la haine, mais réagir avec amour. sans chercher à diffamer l'autre. C'est ce qu'on a lu dans tous ces versets du Lévitique. Et c'est là où l'Ancien Testament complète toujours le Nouveau Testament. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir. Réagir avec amour, mais concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est ne pas le spolier. Je ne le diffame pas, même s'il m'a fait du tort. Je ne vais pas chercher à le ruiner parce qu'il m'a volé 5 euros, alors moi, je vais chercher à lui voler 1000 euros. Vous voyez? Et si on va plus loin, j'ai lu sur Internet, il y a pas mal de chrétiens qui ont des scrupules à porter plainte en justice à cause de ces enseignements. Tant de l'autre joue, aime tes ennemis, je vois des scrupules. Absolument pas. La parole de Dieu nous apprend que les autorités humaines sont aussi établies par Dieu. Le chrétien a bien le droit, quand il est dans son droit, de faire valoir son droit civil dans les autorités, devant les autorités de la République. C'est le droit qui régit nos relations en tant que citoyens. Mais attention à ne pas se faire happer par l'engrenage de la justice qui finalement, où c'est les avocats, les juges qui prennent l'ascendant et qui vont te pousser à, quelquefois, pas tous, il y a peut-être des avocats ici, mais quelquefois, tellement écraser l'autre, à utiliser des méthodes, à noircir le tableau davantage. Non! Le principe d'aller porter plainte en justice n'est pas interdit aux chrétiens, mais c'est comment tu le fais, avec équité. Avec justice. Ce n'est pas parce que tu as droit à quelque chose que tu vas tout arracher non plus. Parce que ta loi, la loi à laquelle tu es soumis, principalement, d'abord d'emblée, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de l'Évangile. Est-ce qu'on comprend ça? Voilà, j'ai voulu terminer ce message avec quelques pistes pratiques. J'espère que ça nous aidera dans la gestion de nos offenses et que ça nous aide dans la manière de gérer les conflits entre nous, les tensions. J'espère que ça nous aide à être des personnes qui pardonnons davantage. Et on sait que le processus du pardon est long et difficile quand en face, il n'y a pas de répondant. Si l'autre n'écoute pas ce que tu dis, ça peut être long et difficile. Et en conclusion, j'aimerais dire simplement que Dieu s'adresse à son peuple en disant « Soyez saints, non pas simplement « Sois saint », mais « Soyez saints parce que je suis saint, moi Dieu ». On peut s'appuyer dans ces temps difficiles où on a du mal, où on souffre parce qu'on a subi des offenses, on peut s'appuyer sur Dieu d'abord, se mettre en face de lui. Mais on peut s'appuyer aussi sur les saints et les saintes qui nous entourent, des frères et sœurs dans la foi mature qui peuvent m'aider parce que je n'arrive pas à m'en sortir dans ce conflit avec tel frère ou sœur. Je ne m'en sors pas tout seul. Je peux demander de l'aide à un saint ou une sainte qui peut m'aider devant le Seigneur. Amen.
Amen. Amen.